Le premier dimanche de novembre, nous voulons avoir une pensée pour ceux qui sont dans le deuil. Et pour réfléchir à cette question du deuil, je vous propose de lire le premier chapitre du livre de Ruth, comme une méditation sur le deuil, mais plus largement le deuil d'une situation d'abondance, comme le dit Naomi, deuil de leur santé, deuil de leurs proches aussi, puisque nous retrouverons là trois veuves, deuil de leur projet de vie, deuil de liens d'affection. Ces pages nous proposent des pistes pour avancer dans nos situations difficiles. Alors voilà ce livre de Ruth, au chapitre 1er. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, et le nom de sa femme était Noémie, et le nom de ses deux fils était Malon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Élimélec, mari de Noémie, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde était Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilion moururent aussi tous les deux et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit donc du lieu où elle vivait avec ses deux belles-filles, et elles se mirent toutes les trois en route pour retourner au pays de Juda. Noémie dit alors à ses deux belles-filles, « Allez et retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Noémie dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui pourraient devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et même si je disais, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, est-ce que vous attendriez pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. » Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors, « Voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. » Ruth dit, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute encore cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Elles marchèrent toutes les deux jusqu'à leur entrée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet, et ils disaient, « N'est-ce pas là Noémie ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez plus Noémie, mais appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblée j'étais partie, vide l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie ? L'Éternel a témoigné contre moi, le Puissant m'a fait du mal. » Ainsi revint Noémie, et avec elle sa belle-fille Ruth, la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour commencer à appeler à l'aide le Seigneur notre Dieu, je vous propose de chanter ensemble les trois premières strophes du psaume 42 dans le psautier français, comme un cerf alter et brame pourchassant le frais des eaux. Ô Seigneur, ainsi mon âme soupire après tes ruisseaux. Nous prions Dieu. Ô Éternel, ne te tais pas en face de moi. Si je frappe à la porte par ma méditation, ouvre-moi. Si je t'interroge, réponds-moi. Si je t'implore, exauce-moi. Oui, tu le feras dans ta grande bonté, tu le feras largement, pourvu que lorsque tu parles, moi-même, je ne détourne pas mon oreille, car tu écoutes avant même qu'on t'écoute. Éternel, tu accueilles nos demandes, fais maintenant que l'on accueille tes réponses. Parle donc, Seigneur, ton serviteur écoute. Vers la fin du texte que je vous ai lu, nous voyons Naomi jouer avec le sens de son nom propre en disant « Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi l'amère, l'amertume ». Ce qui nous donne une clé utile pour comprendre de quoi parle le texte et donc nous devrons faire ce matin un peu d'hébreu, publicité gratuite pour le cours offert de mon ami Gilles Castelnau. Les noms propres servent à présenter, dans la première partie de cette histoire, une vie bien placée. Nous avons, nous dit le texte, un couple de personnes qui ont pour nom Élimélec et Naomi, qui habitent Bethléem de Juda avec leurs deux enfants. Élimélec signifie « mon Dieu », Eli est roi, Mélec, ce qui est la confession de foi essentielle. Reconnaître effectivement que nous ne sommes pas Dieu, ni individuellement, ni même collectivement, mais il est juste et bon de reconnaître, oui, de respecter Dieu comme étant au-dessus de nous. Et le nom de Naomi signifie « ma douce », « ma gracieuse ». Et ce couple évoque ainsi l'alliance d'une bonne, d'une juste relation avec Dieu, mais aussi d'un bon regard sur la vie en ce monde, un regard qui en reconnaît la beauté et la grâce, et qui aime ce monde. À cette bonne vision de Dieu et de notre être dans le monde, s'ajoute une dimension plus dynamique en nous disant d'où ils sont issus, d'où ils sont nés. Ils sont de Bethléem, qui veut dire la maison du pain. Beth, la maison, et le pain, l'Echem, la boulangerie en fait. Et cette boulangerie n'est pas n'importe où, elle est de Juda, ce qui veut dire l'Éternel, Yehou, soit loué, Yada. Et donc la vie belle et bonne est donc dans un double geste qui consiste, oui, à nourrir son être dans la louange, et puis peut-être aussi à produire du pain pour nourrir les autres en reconnaissance du pain spirituel que Dieu nous a donné, du pain matériel aussi qui donne force à notre existence, de la joie qu'il y a en ce monde. Et c'est ainsi que nous pourrons être, comme dans le début de ce texte, non pas rois, mais gouverneurs. Alors le texte traduit les juges, non pour opprimer les autres, mais pour que chacun puisse avoir du pain selon la volonté de notre roi. Et donc en quatre noms propres, le livre de Ruth nous donne une figure de ce que c'est que la vie belle. La vie belle et bonne dans le monde. Ce que c'est qu'une humanité dans un sens parfaite. La vie parfaite, oui. Bien entendu, chacune de ces quatre dimensions mérite d'être reconnue et élevée. Le juste regard sur Dieu, la juste relation à Dieu, le regard positif sur notre monde, la nourriture reçue et offerte, et la louange à l'Éternel. Alors la vie parfaite, oui. Mais la Bible sait que la vie en ce monde est vraiment plus compliquée et plus riche qu'une épure. Autour de ces quatre noms propres qui évoquent une vie bien placée et donc qui devrait être pavée de lys et de roses, le texte nous présente des circonstances difficiles. Ce livre ne veut pas nous bercer d'illusions comme si une vie et une foi parfaite pourraient nous garantir une vie sans problème. Oui et non, en fait. Oui, une vie bien placée, ça aide. Ça aide à avoir une vie meilleure et ça aide à se relever quand il y a des problèmes, mais non. Une vie bien placée n'est absolument pas une garantie pour vivre sans catastrophe. La vie n'est pas toujours juste. Il survient une famine, nous dit le texte, frappant même cette humanité idéale. Alors que fait le bon Dieu ? Il n'est pas, contrairement à ce que dit Naomi, derrière la catastrophe, car nous savons en Christ que Dieu n'est que source de vie et de bénédiction pour chacun de ses enfants. Peut-être que cette famine vient des mauvaises décisions des juges, des gouverneurs qui devaient donner, faire en sorte qu'il y ait du pain pour tous dans le pays. Peut-être, effectivement, nous sommes source de mal dans ce monde, mais le texte ne nous dit pas un mot que ce serait la faute des juges. Et déjà donc, nous pouvons tirer de cette première phrase du livre de Ruth un enseignement. Il y a des malheurs qui nous arrivent et qui ne sont la faute de personne, ni de nous-mêmes, ni de Dieu, bien sûr, ni du gouvernement, pour une fois, ni de personne d'autre. Il y a dans la nature une part de hasard qui fait que la maladie, la catastrophe et la mort frappent telle famille, frappe tel pays, frappe telle ville, alors que d'autres passent à travers l'existence sans aucun problème. Il y a là une injustice, oui, et il est inutile d'ajouter à cette injustice une autre injustice et une cruauté qui consisterait à mettre ça sur le dos de Dieu, sur le dos d'autres personnes, ou en culpabilisant nous-mêmes, nous avons assez à faire avec nos propres fautes. Il y a même une deuxième difficulté injuste et inattendue dans cette vie qui devrait être idéale. Elle est exprimée dans cette histoire également par des noms propres. Les fils d'Élimélec et Naomi s'appellent Mahlon et Kilion, littéralement la maladie et la faiblesse. Et là encore, c'est étonnant car le texte précise soigneusement que ces fils sont d'Ephrata, littéralement la fécondité, en Juda, donc la fécondité qu'il y a dans la louange à l'Éternel. Et pourtant, ils s'appellent maladie et faiblesse. Là encore, le malheur défie la logique et la justice. Malgré l'Éternel, malgré sa bénédiction, nous connaissons des catastrophes, des maladies, des faiblesses. Ce texte nous place ainsi devant la beauté, mais aussi devant la difficulté de la vie en ce monde, devant la bénédiction de Dieu et parfois cette expérience de l'absurdité, du malheur qui nous frappe, qui nous tombe dessus, alors que la vie est faite pour être belle et pour être bonne. Voici donc le décor planté dans sa richesse. Le texte nous propose ensuite de bonnes pistes pour avancer et quelques écueils à éviter. Élimélec et Naomi, évoquant par leur foi, par leur nom, la foi et le regard positif sur l'existence, ils se serrent les coudes et ils cherchent une solution innovante à leurs problèmes. Ils rusent avec le mal et avec les codes, car normalement leur place est dans cette terre qui leur a été donnée par Dieu, la terre de la promesse, normalement ruisselante de lait et de miel. La Bible nous apprend à ne pas idolâtrer les « il faut » et les « il ne faut pas », mais à rester souple tout en les gardant en ligne de mire, ces bonnes valeurs. C'est ainsi qu'en cas de famine ou de danger, Abraham, mais aussi Jacob, mais encore Marie, Joseph et Jésus, se réfugient en Égypte pour quelque temps, l'Égypte qui évoque la seule industrie humaine dans une certaine idolâtrie, dans un certain activisme. Il est donc bon, oui, de s'investir dans la gestion des difficultés qui surviennent dans notre vie, avec liberté, avec mobilité, avec inventivité, mais sans se perdre dans la gestion de la crise. C'est ça souvent le problème. Cette histoire attire notre attention sur un danger et même sur deux, particulièrement dans une situation de fragilité qui est un temps de gestion d'un problème dans notre existence. Ce danger, c'est de s'y donner trop profondément dans la lutte contre nos crises. Au lieu de séjourner dans les champs de Moab, le temps de gérer le pic de la crise comme ils en avaient l'intention, Élimélec et Naomi y fixent leur demeure, nous dit la traduction. Le texte dit même qu'ils y investissent leur être, leur cœur, leur vie, leur foi. Ils s'y fixent au point d'y épouser des femmes étrangères, ce qui dans la Bible signifie épouser des valeurs étrangères à la droiture, à la fidélité. Cela signifie perdre cette juste relation à Dieu, source de résurrection et de vie, pour adopter d'autres priorités possibles à notre existence. Et donc le premier écueil, Élimélec se laisse submerger par ce qui ne devrait être qu'un moyen de gérer la crise. Partant d'une juste activité, il se noie dans l'activisme. Élimélec veut normalement dire « mon Dieu est roi », mais ce nom d'Élimélec peut vouloir dire tout autant « à moi la royauté ». C'est donc le même homme, la même situation, mais avec une visée, une foi différente en fait. C'est la même vie avec sa gestion de nos difficultés, de l'injustice, du mal, mais avec un regard soit porté vers le haut ou un regard limité à moi et à mes problèmes, mes difficultés. Ce texte nous invite donc à garder au-dessus d'un combat qui est parfois très dur, c'est vrai, un combat dans lequel nous sommes engagés, à garder Dieu comme roi, à garder cette visée supérieure, ce Dieu de la grâce et de la louange qui nous apporte énormément dans ce temps de fragilité, de faiblesse et de mort. ce Dieu qui nous autorise à nous rendre un peu capables de voir aussi notre Naomi, la beauté de la vie en ce monde, d'en voir la grâce même au milieu des moments difficiles. C'est alors vivre avec cette conscience que notre dignité n'est pas atteinte par notre manque d'argent, ni par l'exil, ni par le deuil, ni par la maladie, la faiblesse, la malchance, ni par la faute. C'est garder notre sens des valeurs, c'est continuer à prendre le temps à nourrir notre être en profondeur dans toutes ses dimensions, continuer à chercher peut-être aussi à aider d'autres à se nourrir, à se serrer les coudes dans ces moments difficiles, à garder notre capacité de reconnaissance et de louange, la mémoire de bonnes choses passées, vécues. Et si vacille notre espérance de vivre et de vivre bien, la demander à Dieu, revenir à cela, garder les yeux là-dessus, au plus dur de nos durs combats, comme au cœur des moments de bonheur d'ailleurs, et ce n'est pas forcément plus facile non plus. Le deuxième écueil, c'est quand Orpa et Ruth épousent Mahlon et Kilion, la maladie et la faiblesse. Alors il est bon de reconnaître notre maladie et notre faiblesse, de les assumer, mais pas de les épouser. Persister à ne pas aimer notre maladie, à ne pas accepter notre faiblesse. Alors oui, il peut y avoir un charme à épouser en quelque sorte sa maladie, son deuil, sa faiblesse et à ruminer ses problèmes dans une sorte de mélancolie. La fidélité ne nous demande pas cela. Ce n'est pas une bonne idée, mais plutôt il faut continuer à ruser pour contourner la famine, pour revenir ouvrir la boulangerie le plus vite possible, garder unis le meilleur de nous-mêmes, cette foi en Dieu. Et notre Naomi, finalement, cette conscience que nous sommes quelqu'un de bon et de gracieux, que nous avons quelque chose de bon en nous, que nous avons un talent. Garder cette saine respiration qu'est la louange vers le passé et l'espérance en Dieu dans son incroyable créativité pour reconstruire la vie, pour ressusciter ce qui est mort. La deuxième partie de la vie de cette famille nous montre ainsi deux dangers face aux difficultés. Le premier, c'est de perdre la foi. Et le deuxième est de devenir plus passionné par notre maladie que par notre beauté et notre talent. Mais une remontée est possible. La suite du texte le montre. Une remontée possible par la liberté et par la fidélité. Mais quelle liberté et quelle fidélité ? C'est là que le texte est assez riche, car il ne nous propose pas seulement une solution, mais trois solutions, trois pistes. Avec ces trois femmes qui sont frappées par le deuil, chacune suivra son propre chemin de liberté et de fidélité. Ce récit nous propose ainsi trois pistes pour remonter, trois pistes pour nous donner le choix entre différentes solutions, mais aussi peut-être pour les combiner et en trouver une quatrième. Toutes trois, ces trois femmes, nous dit le texte, se lèvent et sortent du lieu où elles demeuraient. Plus facile à dire qu'à faire, effectivement. D'où sortent-elles cette impulsion qui leur permet de se lever, de ressusciter, de sortir du lieu où elles étaient, de ce lieu de difficulté, pour se mettre en route? Eh bien, c'est là qu'il y a l'œuvre de Dieu dans ce texte, ce Dieu si discret. C'est dans sa foi que Naomi reçoit cet élan de résurrection, un élan de résurrection qui va être communicatif et qui va se transmettre aux deux autres autour d'elle. Pourtant, sa foi est un peu malade. Elle n'est plus dans la seule louange, mais elle accuse encore Dieu injustement du mal qui l'a frappée. Elle refuse d'être appelée Naomi gracieuse, mais Mara la mère. Mais elle reçoit quand même de sa foi la force de se lever, puis de bénir et de vouloir du bien aux personnes qu'elle aime et qui sont autour d'elle. Elle puise dans sa foi la joie de leur dire sa reconnaissance pour ce qu'elles lui ont apporté, et de les libérer, de les autoriser à exister et à choisir leur propre vie, leur propre chemin. Car oui, dans cette capacité à se lever, à aimer la vie et à capacité à vouloir choisir son propre chemin, il y a là une puissance de résurrection qui est propre à ces trois femmes, commune à ces trois femmes, chacune dans son chemin. Alors Naomi, elle choisit son chemin. Et ce chemin, c'est de retourner au dernier point de son bonheur vécu. Elle sait bien qu'on ne peut pas faire revenir le passé, bien entendu. Elle sait qu'elle est partie comblée et elle croit revenir avide. Alors qu'en fait, elle est bien moins avide qu'elle ne le croit, qu'elle ne le pense encore à ce moment de sa vie. Elle est riche de sa foi, d'une foi nouvelle. Elle est riche de son courage face à la honte de repartir de 3 petits grains d'orge glanés dans les champs. Elle est forte de son intelligence éclairée. Elle est riche d'atouts qu'elle ignore encore, et c'est seulement à la fin de cette histoire qu'elle découvrira que cette fille improbable qui s'est attachée à ses pas, elle n'est pas une charge, mais qu'elle vaut pour elle plus que 7 fils. Orpah, elle, la seconde, est entraînée par cet élan de résurrection que lui donne Naomi. C'est là aussi une force sur laquelle nous pouvons compter, la force de notre parole pour dire la bénédiction de Dieu et ressusciter les autres. Mais aussi la force de l'amitié qui nous permet de recevoir la force d'autres plus forts que nous. Et donc Orpah se lève, elle sort et elle se met en route. C'est déjà bien. Et ensuite seulement, elle réfléchit, ce qui n'est pas mal non plus quand même. Elle hésite entre 2 attachements. C'est ce qui fait souvent la complexité, le tragique de notre existence. Elle choisit de laisser partir les autres et d'être fidèle, mais à sa façon à elle. Parfois, notre bon choix, comme Orpah, n'est pas de tout changer, n'est pas de partir, de quitter, d'avancer, mais de rester là et de nous concentrer sur ce qui nous reste. Elle a perdu son mari, ceux qu'elle aime s'en vont, il lui reste sa mère, son pays, ses dieux, et aussi cette connaissance nouvelle de l'Éternel qui bénit, et avec lui de l'espérance d'un nouvel avenir possible, une paix et une consolation qu'elle ne connaît pas encore, mais qu'elle peut commencer à espérer. Naomi donc retourne vers le passé. Orpah, elle reste dans ce présent. Ruth, enfin, elle va aller de l'avant, vers une terre inconnue. Elle va, dans cette phrase qui est une des plus belles phrases de la Bible, dire à Naomi, « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, ou ton Dieu est déjà mon Dieu, car en hébreu, il n'y a pas de futur, en fait. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré, que l'Éternel me crée. » Que l'Éternel m'ajoute encore autre chose et autre chose si la mort, autre chose que la mort vient me séparer de toi. Alors que nous dit cette fidélité, cet amour de Ruth, comment s'en inspirer dans nos moments difficiles et dans nos moments d'abondance aussi, pourquoi pas? Bien sûr, en mettant du cœur comme elle dans nos attachements. Mais en même temps que cette force et cet enthousiasme de Ruth, nous pourrions relever aussi son humilité, une saine humilité. Contrairement à ce que disent certaines traductions, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si je ne tiens pas parole, une parole donc un peu de défi. Ruth, au contraire, a une humilité qui compte sur Dieu, qui demande à Dieu de l'aider à évoluer si elle fléchit, de lui ajouter, d'ajouter encore ce qui lui manquerait pour tenir. Oui, que l'Éternel me fasse ceci, qu'il me crée, qu'il ajoute et qu'il ajoute encore si je venais à fléchir. Et à quoi donc est fidèle Ruth pour se relever de son deuil, pour avancer? En étant fidèle à la mère de celui qu'elle a perdu. Elle lui est fidèle à celui qu'elle a perdu, mais sans se perdre, en évitant les écueils évoqués plus haut. Ruth est fidèle à la source plus qu'à l'objet de son amour perdu, finalement. C'est ce que l'on appelle en mathématiques « passer à la tangente ». C'est-à-dire chercher dans la courbe de notre existence les moments d'infléchissement, chercher la source de ce qui nous a rendus vivants dans le passé. Non pour espérer un lot de remplacement, non, la vie ne revient pas en arrière, le passé ne revient jamais. Et Ruth ne peut espérer un nouveau fils de Naomi pour remplacer le premier. Mais Ruth cherche à être fidèle à la source de son amour, elle cherche même à être fidèle à la source de son bonheur, à ce qui a inspiré Naomi pour faire ce qu'elle est, pour donner le fils qu'elle a aimé. Et donc elle va chercher à être fidèle non seulement à Naomi, mais à son pays et à son Dieu. Oui, chercher la source première, la source ultime de ce que l'on aime, de ce qui nous a rendus vivants, de ce qui nous a rendu la vie belle, c'est ce qui permet à la fois d'être fidèle à un passé que nous aimons, mais dans le bon sens du terme, non tourné vers le passé, mais tourné vers la vie, dans la louange. Oui, que Dieu nous crée, qu'il nous ajoute encore et encore, oui, il nous gardera en route. Et de cette Naomi que nous sommes, de notre grâce qui est ballottée entre l'abondance et les difficultés, descendra David, le roi bien-aimé, descendra le Christ, le Sauveur, non seulement de nous-mêmes, mais de l'humanité. Amen.